Histoire et conscience. L'histoire n'est rien que la succession des générations, qui viennent l'une après l'autre, et dont chacune exploite les matériaux, les capitaux, les forces productives léguées par toutes les générations précédentes. Par conséquent, chacune d'elles continue, d'une part, l'activité traditionnelle dans des circonstances entièrement modifiées, et, d'autre part, elle modifie les anciennes conditions par une activité totalement différente. Grâce à des artifices spéculatifs, on peut nous faire croire que l'histoire à venir est le but de l'histoire passée. Ainsi, par exemple, on attribue à la découverte de l'Amérique un but, celui d'avoir permis le déclenchement de la Révolution française. Grâce à quoi l'histoire se voit assigner des fins particulières et devient une personne parmi des personnes, entre guillemets, tels que conscience de soi, critique unique, etc. Tandis que ce que l'on désigne par les termes vocation, but, germe, idée de l'histoire antérieure, est tout simplement une abstraction de l'histoire ultérieure, une abstraction de l'influence active que l'histoire passée exerce sur l'histoire récente. Or, plus les diverses sphères qui agissent les unes sur les autres s'étendent au cours de cette évolution, plus l'isolement primitif des diverses nations est détruit par le mode développé de production et de commerce, et par la division du travail qui en résulte spontanément entre les diverses nations, et plus l'histoire se transforme en histoire mondiale. Aussi, lorsqu'on invente en Angleterre, par exemple, une machine qui réduit au chômage d'innombrables travailleurs dans l'Inde et en Chine, en bouleversant tout le mode d'existence de ces empires, cette invention devient un fait historique d'une portée universelle. De même, le sucre et le café ont démontré leur importance historique et mondiale au XIXe siècle, du fait que la pénurie de ces produits, par suite du blocus continental de Napoléon, incita les Allemands à se soulever contre ce dernier, et devint ainsi la base réelle des glorieuses guerres de libération de 1813. Il s'ensuit que cette métamorphose de l'histoire en histoire mondiale n'est nullement un simple acte abstrait de la conscience de soi, de l'esprit du monde, ou de quelque autre fantôme métaphysique, mais un acte purement matériel, empiriquement démontrable, un acte dont n'importe quel individu, tel qu'il mange, boit et s'habille, est une illustration vivante. Assurément, c'est une donnée tout aussi empirique de l'histoire écoulée qu'avec l'extension mondiale des activités, les différents individus ont été de plus en plus asservis à une puissance qui leur est étrangère, à une puissance qui est devenue de plus en plus massive pour apparaître finalement comme marché mondial. Mais il est tout aussi fondé empiriquement que cette puissance, si mystérieuse pour les théoriciens allemands, s'évanouira après le renversement de l'ordre social existant par la révolution communiste et par l'abolition concomitant de la propriété privée. C'est alors que la libération de chaque individu se réalisera dans la mesure même où l'histoire se sera transformée complètement en histoire mondiale. De tout ce qui vient d'être dit, on comprend que la véritable richesse spirituelle de l'individu dépend entièrement de la richesse de ses relations réelles. C'est seulement ainsi que les individus sont délivrés des diverses barrières nationales et locales, mis en contact pratique avec la production du monde entier, y compris celle de l'esprit, capable d'acquérir la faculté de jouir de cette production multiforme du globe entier. Première forme spontanée de la coopération historique et mondiale des individus, la dépendance universelle se change, par suite de cette révolution communiste, en contrôle et en maîtrise consciente de ces puissances qui, nées de l'interaction des hommes, les ont dominées et leur en ont fait jusqu'à présent imposer comme puissances absolument étrangères. Or, de nouveau, cette conception peut être comprise d'une manière spéculative et idéaliste, autrement dit visionnaire, comme création du genre humain par lui-même, entre guillemets. la société comme sujet. En sorte que les générations successives des individus, liés les uns aux autres, se présentent comme un individu unique qui accomplit le mystère de s'engendrer lui-même. Il apparaît ici que les individus, à la vérité, se font mutuellement, au physique comme au moral, et qu'ils ne se font pas eux-mêmes, ni dans le sens absurde de Saint Bruno, ni dans le sens de l'unique, de l'homme fait, entre guillemets. Par conséquent, cette théorie de l'histoire a pour objet d'analyser le processus réel de production en partant de la production matérielle de la vie quotidienne, de concevoir la forme de commerce liée à ce mode de production et engendrée par lui, autrement dit, la société civile à ses différents stades, comme fondement de toute l'histoire. De décrire cette société dans son action en tant qu'État, aussi bien que d'expliquer par elle l'ensemble des diverses productions théoriques et formes de la conscience, telles que la religion, la philosophie, la morale, etc. D'observer la genèse de la société civile en liaison avec ses formes et créations, ce qui permet alors, naturellement, d'exposer le phénomène dans sa totalité, et aussi l'interaction de ses divers aspects. Il ne lui faut donc pas rechercher une catégorie dans chaque période, comme le fait la conception idéaliste de l'histoire, mais elle demeure toujours sur le terrain réel de l'histoire, comme elle n'explique pas la pratique par l'idée, mais la formation des idées par la pratique matérielle, elle aboutit logiquement à la conclusion que toutes les formes et tous les produits de la conscience peuvent être résolus, non par la critique intellectuelle, en les ramenant à la conscience de soi, entre guillemets, ou en les transformant en revenants, en fantômes, lubies, etc., mais seulement en bouleversant effectivement les conditions sociales d'où sont issues ces billevesées idéalistes. Bref, ce n'est pas la critique, mais la révolution qui est la force motrice de l'histoire, de la religion, de la philosophie et de toute autre théorie. Elle montre que l'histoire ne prend pas fin en se dissolvant dans la « conscience de soi », entre guillemets, comme « esprit de l'esprit », mais que chacun de ces stades offre un résultat matériel, une somme de forces productives, une relation historiquement créée avec la nature et entre les individus, dont chaque génération hérite de sa devancière, une masse de forces productives, de capitaux et de circonstances qui, d'une part, sont modifiées certes par la nouvelle génération, mais qui lui prescrivent, d'autre part, ses propres conditions d'existence et lui impriment un développement déterminé, un caractère spécifique. Bref, cette conception de l'histoire montre que les circonstances font les hommes tout autant que les hommes font les circonstances. Cette somme de forces productives, de capitaux et de modes de commerce social, que chaque individu et chaque génération trouvent devant eux comme un fait donné, constitue la base réelle de ce que les philosophes se sont représentés en parlant de « substance » entre guillemets et d'essence de l'homme, de ce qu'ils ont exalté et combattu. Fondement réel, qui n'est pas le moins du monde, affecté dans ses effets et ses influences sur le développement des hommes du fait que ces philosophes se révoltent contre lui, sous le masque de la conscience de soi ou de l'unique. Il dépend aussi de ses conditions de vie, léguées par les générations successives, que la secousse révolutionnaire qui se reproduit périodiquement dans l'histoire soit ou ne soit pas assez puissante pour renverser les fondements de tout l'ordre existant. Et si ces éléments matériels d'un bouleversement total, à savoir, d'une part, les forces productives disponibles et, d'autre part, la formation d'une masse révolutionnaire qui se révolte non seulement contre certaines conditions de la société passée, mais aussi contre l'ancienne production de la vie elle-même et contre sa base, l'activité totale, si ces éléments-là sont absents, il est tout à fait indifférent pour le développement pratique que l'idée de ce bouleversement ait déjà été formulée 100 fois. L'histoire du communisme est là pour le démontrer. ou bien toute l'ancienne théorie de l'histoire n'a pas tenu le moindre compte de cette base réelle de l'histoire, ou bien elle l'a considérée comme accessoire et sans aucun rapport avec l'évolution historique. Aussi faut-il toujours écrire l'histoire selon une norme qui lui est extérieure. La réelle production vitale ne semble pas relever de l'histoire, tandis que le domaine historique apparaît comme séparé de la vie ordinaire, comme s'il était en dehors ou au-dessus du terrestre. Les relations des hommes avec la nature sont ainsi exclues de l'histoire, ce qui donne lieu à l'opposition de la nature et de l'histoire. C'est pourquoi l'ancienne théorie n'a pu voir dans l'histoire que des faits et gestes politiques, des actions d'éclat et des luttes religieuses, c'est-à-dire théoriques. Et elle a dû notamment, pour chaque époque historique, partager l'illusion de cette époque. Si par exemple, une époque s'imagine qu'elle est déterminée par des motifs purement politiques ou religieux, alors qu'en vérité, religion et politique ne sont que les formes de ces motivations réelles. L'historiographie de cette époque accepte cette opinion. L'imagination, les idées de ces hommes-ci au sujet de leur activité réelle sont transformées en cette puissance qui est seule à décider et à agir, et qui, par conséquent, domine et détermine l'attitude pratique de ces hommes. Quand la forme rudimentaire de la division du travail chez les Indiens et chez les Égyptiens fait naître chez ces peuples le système des castes dans leur état et dans leur religion, l'historien est d'avis que le système des castes est la puissance qui a produit cette forme sociale rudimentaire. Alors que les Français et les Anglais s'en tiennent du moins à l'illusion politique, qui se rapproche encore le plus de la réalité. Les Allemands se meuvent dans la sphère de l'esprit pur et érigent l'illusion religieuse en force motrice de l'histoire. La philosophie hegelienne de l'histoire est l'ultime conséquence, l'expression la plus pure, entre guillemets, de toute cette historiographie allemande dans laquelle il ne s'agit pas d'intérêts réels, pas même d'intérêts politiques, mais de pures idées. Rien d'étonnant si Saint Bruno n'y a vu qu'une succession d'idées dont l'une dévore l'autre pour sombrer finalement dans la « conscience de soi », entre guillemets. Plus conséquent encore est Saint Max Stirner, qui ne sait rien de toute l'histoire réelle et a dû voir dans cette évolution historique une simple histoire de chevaliers, de brigands et de fantômes. À leur vision, il ne s'est naturellement échappé que par l'impiété. Note de bas de page, l'historiographie dite objective consistait justement à séparer les phénomènes historiques et l'activité des hommes, caractère réactionnaire de cette conception. Fin de la note de bas de page. C'est là une conception vraiment religieuse, car elle repose sur la fiction du premier homme, cet être dont procède toute l'histoire, et dans son imagination, elle substitue la production de fantasmes religieux à la production réelle des moyens d'existence et de la vie elle-même. Toute cette conception de l'histoire, y compris sa décomposition et les scrupules et les doutes qui en résultent, est une affaire purement nationale des Allemands, et n'a qu'un intérêt local pour l'Allemagne, comme par exemple l'important problème, souvent débattu ces temps derniers, de savoir comment l'on passe vraiment du royaume de Dieu au royaume des hommes, comme si ce « royaume de Dieu » avait jamais existé ailleurs que dans l'imagination, et comme si ces doctes messieurs ne vivaient pas en permanence, et sans s'en douter, dans le « royaume des hommes » dont ils cherchent à présent le chemin, et comme si l'amusement scientifique, car qu'est-ce d'autre, qu'il y a à expliquer la bizarrerie de cette chimère théorique, ne consistait pas, au contraire, à prouver qu'elle doit son origine aux seules circonstances terrestres. Ces Allemands aiment en général à remplacer les absurdités courantes par quelques autres marottes, c'est-à-dire à supposer que tout ce non-sens a bien un sens secret qu'il s'agit de découvrir, alors que le seul problème consiste à expliquer cette phraséologie théorique par les conditions réelles existantes. L'effacement réel et pratique de cette phraséologie, l'élimination de ces idées de la conscience humaine ne sera réalisée redisons-le, que grâce à un milieu transformé, et non par des arguments théoriques. Ces représentations théoriques n'existent pas pour la masse des hommes, autrement dit pour le prolétariat. Et elles n'ont donc pas besoin d'être effacées. Et si cette masse a pu avoir quelques notions théoriques, la religion par exemple, il y a longtemps déjà qu'elles ont été effacées par les circonstances. Que ces théoriciens puissent croire, très sérieusement, que des billevesées telles que « l'homme-dieu », entre guillemets, « l'homme avec un grand H », etc., ont présidé aux différentes époques de l'histoire, voilà qui confirme le caractère purement national de ces questions et de ces solutions. Notre saint Bruno va même jusqu'à prétendre que « la critique » et « les critiques » seuls ont fait l'histoire. De même, quand ils construisent eux-mêmes des échafaudages historiques, quand ils sautent précipitamment par-dessus tout le passé et passent aussitôt de la mongolité à l'histoire vraiment substantielle, puis à celle de la disparition de l'école hégélienne dans une zizanie générale. Toutes les autres nations, tous les événements réels sont oubliés. Le théâtre du monde se limite à la foire au livre de Leipzig et aux querelles que ce livre, la critique, l'homme et l'unique. Et si, par hasard, la théorie s'avise d'aborder les thèmes vraiment historiques, disons le XVIIIe siècle, ces théoriciens s'en tiennent à l'histoire des idées, détachés des faits et des développements pratiques qui en constituent le fondement. Et il ne s'agit d'ailleurs pour eux que de décrire cette époque comme une étape préliminaire imparfaite, avant-courrière bornée du temps vraiment historique, l'époque de la lutte des philosophes allemands pendant les années 1840-1844. Leur but étant d'écrire une histoire du passé, pour faire resplendir avec le plus d'éclat la gloire d'un personnage sans envergure et de ses lubies. Il est normal qu'ils n'évoquent aucun des événements vraiment historiques, même pas les intrusions réellement significatives de la politique dans l'histoire, et qu'ils offrent, en revanche, un récit fondé non sur des études, mais sur des échafaudages et des points littéraires. Exemple, saint Bruno dans son « Histoire du XVIIIe siècle, aujourd'hui oublié ». Empathiques et arrogants, ces débitants d'idées, qui se croient infiniment au-dessus de tous les préjugés nationaux, sont donc, en fait, beaucoup plus nationaux que ces philistins, piliers de cabaret, qui rêvent de l'unité de l'Allemagne. Ils dénient tout caractère historique aux actions des autres peuples. Ils vivent en Allemagne, au lieu dit Allemagne, et pour l'Allemagne, ils transforment la chanson du Rhin en hymne spirituel, et font la conquête de l'Alsace et de la Lorraine en pillant la philosophie française et non l'État français, et en germanisant des idées françaises et non des provinces françaises. À la lumière de ces explications, on voit combien Feuerbach s'abuse quand il se déclare communiste, au moyen de la qualification de « l'homme social », entre guillemets, nom qu'il transforme en prédicat de « l'homme » avec un grand H. Il se croit ainsi autorisé à transformer à son tour, en une simple catégorie, ce terme de communiste qui désigne, dans le monde d'aujourd'hui, l'adhérent d'un parti révolutionnaire bien déterminé. Tout le raisonnement de Feuerbach concernant les rapports mutuels des hommes, tend uniquement à prouver que les hommes ont besoin, et ont toujours eu besoin, les uns des autres. Il voudrait que l'on prenne conscience de ce fait, et, comme d'autres penseurs, il ne vise qu'à susciter une conscience exacte d'un fait existant, alors que le vrai communiste tient, avant tout, à renverser cet ordre existant. Au demeurant, nous reconnaissons sans réserve qu'en s'efforçant d'éveiller précisément la conscience de ce fait-là, Feuerbach va aussi loin que n'importe quel théoricien peut aller, sans cesser d'être théoricien et philosophe. Mais il est caractéristique que nos saints Bruno et Max se hâtent de mettre à la place de communistes réels l'image du communiste selon Feuerbach, ce qui leur permet, du moins en partie, de combattre le communisme en tant qu'esprit de l'esprit, comme catégorie philosophique. Bref, comme un adversaire d'égal à égal. Cette manière de reconnaître et de méconnaître l'ordre établi, que Feuerbach partage toujours avec nos adversaires, nous en avons un exemple dans ce passage de la philosophie de l'avenir, où il démontre que l'existence d'une chose ou d'un homme est identique à son essence, que telle condition d'existence, tel mode de vie et telle activité d'un individu, qu'il soit animal ou humain, que tout cela constitue la condition du bonheur de son essence. Ici, chaque exception est expressément perçue comme un hasard malheureux, comme une anomalie qu'on ne peut changer. Si donc, des millions de prolétaires ne se sentent aucunement satisfaits de leurs conditions de vie, quand leur existence ne correspond pas le moins du monde à leur essence, ce serait là, d'après le propos cité, un malheur inévitable qu'il faudrait supporter sans broncher. Cependant, ces millions de prolétaires ou de communistes en pensent tout autrement, et ils le prouveront quand leur temps sera venu, quand ils rétabliront de manière pratique, par une révolution, l'harmonie entre leur existence et leur essence. C'est pourquoi, en présence de ces cas, Feuerbach ne parle jamais du monde des hommes, mais il se réfugie chaque fois dans la nature extérieure, à savoir précisément dans la nature, avec un grand N, que les hommes n'ont pas encore soumise à leur pouvoir. Mais à chaque nouvelle invention, à chaque progrès de l'industrie, l'homme arrache une nouvelle parcelle à ce domaine. Et le terrain propice aux exemples rappelés par Feuerbach se rétrécit de plus en plus. L'essence du poisson, c'est pour nous en tenir à ce seul propos, son existence, c'est-à-dire l'eau. L'essence du poisson de rivière, c'est l'eau d'une rivière. Mais cette eau cesse d'être son essence et devient pour lui un milieu, désormais inadéquat, dès que l'industrie s'empare de cette rivière, dès qu'elle est polluée par des substances colorantes et d'autres détritus, dès que les navires à vapeur la sillonnent, dès qu'on détourne son eau dans des canaux où l'on peut priver le poisson de son milieu vital, par simple évacuation. Proclamer que toutes ces contradictions sont des anomalies inévitables ne diffère pas, au fond, de la consolation que Saint Max Stirner prodigue aux malheureux, en leur disant que cette contradiction est leur propre contradiction, que cette infortune est leur propre infortune. Il reste qu'ils pourraient soit s'y résigner, soit garder pour eux leur propre indignation, soit se révolter contre leur infortune par la fuite dans l'imaginaire. En donnant cette explication, Feuerbach ne diffère pas davantage de Saint Bruno, quand il remontre aux mécontents que, s'ils se trouvent dans ces circonstances malheureuses, c'est qu'ils sont restés enfoncés dans la crasse de la « substance », entre guillemets, incapables de progresser vers l'absolue conscience de soi, entre guillemets, et de reconnaître ces conditions misérables comme l'esprit de leur esprit. En réalité, pour les matérialistes pratiques, c'est-à-dire pour les communistes, il s'agit de révolutionner le monde existant, d'attaquer et de transformer pratiquement l'état des choses données. Si l'on trouve parfois, chez Feuerbach, des idées de ce genre, elles ne vont jamais au-delà d'intuitions isolées, et elles ont une bien trop faible influence sur sa conception générale pour que nous puissions y voir autre chose que des germes susceptibles de développement. La conception du monde sensible chez Feuerbach se limite, d'une part, à la pure contemplation de celui-ci, et, d'autre part, à la pure sensation. Il dit « l'homme » avec un grand H, au lieu de « l'homme historique réel ». L'homme avec un grand H, en réalité, c'est l'allemand. Dans le premier cas, celui de la contemplation du monde sensible, il achoppe nécessairement sur des choses qui contredisent à sa conscience et son sentiment, qui troublent l'harmonie par lui présupposée, de toutes les parties du monde sensible, celle surtout de l'homme avec la nature. Pour écarter ces choses, il lui faut recourir à une double manière de voir. L'une profane, qui ne s'arrête qu'à ce qui crève les yeux, entre guillemets, l'autre supérieur, philosophique, qui saisit la véritable essence, entre guillemets, des choses. Note de bas de page. L'erreur de Feuerbach n'est pas de subordonner les choses qui crèvent les yeux, c'est-à-dire l'apparence sensible, à la réalité sensible que l'on constate en examinant soigneusement les faits concrets. Son erreur, c'est plutôt de ne pas venir à bout, en dernier ressort, de cette réalité sans la considérer avec les yeux, c'est-à-dire avec les lunettes, entre guillemets, du philosophe. Fin de la note de bas de page. Il ne voit pas que le monde sensible qui l'entoure n'est pas une chose donnée immédiatement et de toute éternité, toujours semblable à elle-même, mais le produit de l'industrie et des conditions sociales, et ce, au sens de produit historique, de résultat de l'activité de toute une suite de générations, dont chacune, s'élevant sur les épaules de la précédente, continue à développer son industrie et son commerce, et modifie son ordre social en fonction du changement des besoins. Il n'est pas jusqu'aux objets de la certitude sensible la plus simple qui ne lui soit donné que par l'évolution sociale, l'industrie et les échanges commerciaux. On sait que, comme presque tous les arbres fruitiers, le cerisier a été transplanté dans nos pays par le commerce, il y a quelques siècles à peine, en sorte que si Feuerbach a pu en avoir la certitude sensible, c'est grâce à cette action d'une société déterminée, à une époque déterminée. Au demeurant, et comme on le montrera plus clairement encore par la suite, dans cette conception qui voit les choses en leur réalité actuelle et passée, tout problème philosophique profond se ramène tout simplement à un fait empirique. Ainsi, par exemple, l'importante question des rapports entre l'homme et la nature, ou même, comme le dit Saint Bruno, les antithèses dans la nature et dans l'histoire, entre guillemets, comme s'il y allait de deux choses dissociées l'une de l'autre, comme si l'homme n'avait pas toujours devant lui une nature historique et une histoire naturelle. Question qui a fait naître tant d'ouvrages d'un sublime insondable, entre guillemets, sur la substance et la conscience de soi, s'évanouit d'elle-même si l'on comprend que la fameuse unité de l'homme et de la nature a existé de tout temps dans l'industrie, qu'elle a existé sur un mode différent à chaque époque, et selon que l'industrie y était plus ou moins développée, et qu'il en sera de même du combat de l'homme avec la nature, jusqu'au jour où le développement de ses forces productives se fera sur une base correspondante. L'industrie et le commerce, la production et l'échange des choses nécessaires à la vie, conditionnent de leur côté la distribution, la hiérarchie des différentes classes sociales, qui en sont à leur tour conditionnées dans leur mode de fonctionnement. Et voilà pourquoi Feuerbach ne voit à Manchester, par exemple, que fabriques et machines là où, pendant des siècles, on ne voyait que rouer et métiers à tisser, ou qu'il ne découvre dans la campagne romaine que pâturage et marais, là où il n'aurait trouvé au siècle d'Auguste que des vignobles et des villas des capitalistes romains. Feuerbach parle surtout de la conception des sciences naturelles, mentionnant des secrets qui ne se dévoilent qu'aux yeux du physicien et du chimiste. Mais où serait la science de la nature sans industrie ni commerce? Son but comme ses matériaux, cette pure science de la nature, les tient elle-même tout d'abord du commerce, de l'industrie et de l'activité concrète des hommes. Cette activité, ces incessantes besognes et créations de nos sens, cette production, est à ce point le fondement du monde réel tout entier, tel qu'il existe à présent, que si on l'interrompait ne fût-ce que pour une année, Feuerbach trouverait non seulement une immense transformation dans le monde naturel, mais il regretterait bien vite la disparition de l'humanité tout entière et de sa propre faculté intuitive, voire de sa propre existence. Cela dit, sans doute, la priorité de la nature extérieure subsiste. Sans doute, tout cela ne s'applique aucunement aux premiers hommes créés par génération spontanée. Mais cette distinction n'a de sens que dans la mesure où l'on considère l'homme comme distinct de la nature. Du reste, cette nature antérieure à l'histoire humaine n'est pas du tout la nature dans laquelle vit Feuerbach. Une telle nature, qui n'existe plus nulle part de nos jours, sinon peut-être dans les mers australes, sur quelques atolls d'origine récente, n'existe donc pas davantage pour Feuerbach. Certes, Feuerbach a sur les matérialistes purs le grand avantage de comprendre que l'homme est, lui aussi, un objet sensible. Mais, de même qu'il le conçoit uniquement comme objet sensible, et non comme activité sensible, car, là encore, il s'en tient à la théorie et ne saisit pas les hommes dans leurs rapports sociaux donnés, dans leurs conditions de vie actuelles qui ont fait d'eux ce qu'ils sont. De même, jamais il n'arrive à l'homme actif et réellement existant. Il s'en tient à une abstraction, l'homme avec un grand H, et ne parvient à reconnaître l'homme réel, individuel, en chair et en os, que dans le sentiment, c'est-à-dire qu'il ne connaît pas d'autres rapports humains, de l'homme à l'homme, que ceux de l'amour et de l'amitié, et idéalisé avec cela. Il ne fait aucune critique des conditions de vie actuelles. Aussi, ne parvenant jamais à saisir le monde sensible comme l'ensemble de l'activité sensible et vivante des individus qui le constituent, est-il contraint, en apercevant par exemple, au lieu d'hommes robustes, une foule famélique de scrofuleux surmenés et poitrinaires, de se réfugier dans la conception supérieure et l'alignement des genres, entre guillemets, retombant de la sorte dans l'idéalisme. Là même où le communiste matérialiste voit la nécessité et la condition d'une transformation de l'industrie aussi bien que de la structure sociale. Dans la mesure où Feuerbach est matérialiste, l'histoire n'entre pas en ligne de compte chez lui. Et dans la mesure où il prend l'histoire en considération, il n'est pas matérialiste. Chez lui, matérialisme et histoire sont totalement dissociés, ce qui s'explique, du reste, par ce qui précède.